Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire un pas de côté par rapport à notre sujet central de l'urbanisme et pour vous parler d'art contemporain. Alors, ça m'est venu en lisant les interviews à la fois radio et sur la presse écrite, notamment dans l'Express de la semaine dernière, d'un dénommé Benjamin Oliven, qui est le fils d'une illustre famille médiatique, et qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle L'autre art contemporain. Alors, il prend une position, il n'est pas le premier à prendre une position critique par rapport à la production de l'art contemporain. Et quand je parle de l'art contemporain, il s'agit, comme bien souvent quand on parle d'art, il s'agit de la peinture, de la sculpture, ce que l'on appelle aujourd'hui la production des plasticiens. Vilain mot, s'il en est. Donc, notre auteur fait une critique virulente sur l'art conceptuel et sur la politique de la, on peut dire, de la politique officielle de la bureaucratie ou de celle qui est aussi faite par les politiques, à la fois au niveau national et au niveau régional ou départemental ou municipal. Les choix d'artistes et à la fois des œuvres qui sont, on peut dire, initiées, qui sont payées par nos impôts et qui sont donc l'art officiel de notre époque. Alors, sa critique, comme je vous disais, est assez forte par rapport à cela, et il oppose un art, on peut dire, plus classique, traditionnel, réaliste, en disant qu'il y a de grands artistes français qui sont méconnus. Alors, c'est un débat qui est fort intéressant, même si ce n'est pas le premier sur le sujet. On sait par exemple que Marc Fumaroli, qui est un historien, ou plutôt qui était un historien puisqu'il est mort récemment, académicien et homme érudit, brillant, qui avait écrit là aussi des essais assez percutants contre cet art actuel et prenant comme exemple son sujet, évidemment, qui était l'art classique. De même, Jean Clair, qui est aussi, je pense, oui, qui est à l'Académie française aussi, et toujours vivant, mais qui est aussi un polémiste, et qui pourfend aussi l'art actuel, encore une fois, certainement avait juste raison. Simplement, ce qui est un peu caricatural dans les positions de ces personnages, autant les deux derniers que je viens de citer que Benjamin Oliven, c'est qu'ils prennent comme contre-exemple par rapport à ce que tout le monde voit de ces installations dans les musées qui sont des choses hétéroclites qui font penser plus à des charges publiques qu'à l'art tel qu'on le pense, mais ils opposent à cela, disons, un art assez photographique et on fait une sorte d'impasse sur l'art moderne, c'est-à-dire l'art qui a été initié au début du XXe siècle, qui avait commencé à la fin du XIXe siècle, et là on fait une sorte de raccourci opposant une forme très classique de représentation réaliste et on court-circuite une grande partie de l'art du XXe siècle. Alors, le sujet, effectivement, est assez vaste et ouvert, mais je voudrais reprendre justement sur ce problème de l'art moderne et la rupture qu'il y a eu. on peut dire, au début du XXe siècle. Alors oui, tout le monde sait qu'il y avait des prémices déjà avec les impressionnistes, avec Cézanne, avec Manet, Van Gogh, et que le début du XXe siècle marque, avec par exemple une toile qui est très connue, qui est Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, 1907, donc avant la guerre de 14, donc on est sur une rupture qui n'est pas seulement une rupture esthétique, mais c'est une rupture esthétique qui est l'illustration d'une rupture de civilisation. Alors pour ceux qui m'écoutent, ils savent que c'est un de mes thèmes et qui, évidemment, est lié à la manière dont la ville se fait et se défait et la manière dont notre civilisation s'organise. Donc, pour vous dire le fond de ma pensée, l'art plastique, du moins la peinture et la sculpture, ne sont pas des objets indépendants qui sont simplement liés à le système de décision. Là, actuellement, c'est le ministère de la Culture et les organismes culturels qui sont mis en cause. Et en fait, ce sont des phénomènes qui sont beaucoup plus important, beaucoup plus lié au monde et à ses changements, et disons que c'est la partie visible de l'iceberg. Alors, je reprends donc mes thèmes favoris qui sont ceux de du changement entre deux types de civilisations. Une civilisation qui est donc ancrée dans le sol et une civilisation qui, elle, est détachée et qui modifie et qui ne modifie pas le sol. Et on a là aussi le nouveau regard de notre époque entre la ville ancienne, la manière de transformer le sol, mais ça veut dire la transformation du sol, c'est la transformation de la nature, mais c'est aussi tous les établissements humains et la manière dont ils s'inscrivent dans l'espace, dans le territoire, sur le terrain. Et aussi le regard qui apparaît donc en cette fin du XIXe siècle et en ce début du XXe siècle, un changement de nature, alors qui est certainement avec des causes diverses, mais en tout cas qui est un basculement de civilisation, et ce basculement de civilisation se traduit dans les formes artistiques, et évidemment ce ne sont pas les formes artistiques qui font le changement de civilisation, mais les formes artistiques, on peut dire, sont la traduction visuelle de choses qui sont beaucoup plus, on peut dire, structurelles et moins visibles peut-être. Donc, nous nous confrontons à une définition de l'art, et le sujet est de grande importance, puisque aujourd'hui, tous ces mots qui sont liés à l'art et qui le prennent comme un phénomène indépendant me semblent passer à côté de l'essentiel. Par exemple, je vais prendre un mot qui est repris dans tous ces textes dont je parle à l'instant. On parle beaucoup de la créativité. Donc c'est quelque chose qui est le sujet central, la créativité. Alors il faut rappeler quelques principes et justement les changements de l'époque, parce que il n'en a pas été toujours ainsi, et on peut dire même d'une manière beaucoup plus radicale, il n'en a jamais été ainsi. C'est-à-dire que le mot créateur, le mot création, était uniquement réservé à Dieu. Le créateur, c'était Dieu. Et l'homme, évidemment, n'est pas créateur. Et donc, c'est ce changement de paradigme, ce changement de vocabulaire est significatif de notre époque, puisqu'en fait, l'homme, peut-être pour des raisons diverses, notamment le recul des religions, l'homme s'identifie à Dieu et cet élément, cette manière de penser le monde avec l'homme et sa créativité mélange plusieurs choses, mélange à la fois la recherche et les découvertes scientifiques, les applications de la technologie qui sont effectivement une manière de création, de changement et qui sont certainement les choses les plus étonnantes de notre époque, bien que la création technique, l'invention technique a toujours été de toutes les époques, mais en tout cas, c'est certainement ce qui est le plus visible et impressionnant. Et donc, les arts reprennent ce modèle du chercheur scientifique et de la création, et la création qui serait quelque chose qui serait le fondement même de la vie et la fin ultime de tout individu. Alors, vous avez vu les publicités sur devenez créatif avec votre appareil photo numérique, devenez créatif avec tel jeu, telle manière de dessiner. En fait, le mot créatif s'emploie pour la publicité, les créatifs de publicité, enfin des choses qui sont tout à fait accessoires, et ce mot fondamental de la création devient à la fois banalisé et s'accompagne aussi certainement de l'individualisme qui reflète bien notre société. En effet, l'idée même justement de l'art contemporain, c'est qu'il est en permanence dans l'innovation et dans la création et dans la recherche. Et la question c'est, est-ce qu'il en a toujours été ainsi? La réponse est clairement non, puisque les formes artistiques perdurent sur des époques qui sont longues dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire des civilisations et ne sont pas dans un permanent changement comme la mode vestimentaire avec les défilés de mode et encore, c'est-à-dire ce que l'on cherche à montrer, ce que l'on apprend dans les écoles d'art, c'est soyez vous-même, exprimez-vous et surtout soyez différent des autres. Alors, si on reprend par exemple, on va revenir au thème central de cette émission qui est l'architecture, et si on regarde par exemple l'architecture classique, on va voir l'architecture classique à l'époque d'abord de la Grèce, puis Rome, et qui continue et amplifie la civilisation grecque avec le style classique qui est fait de, par exemple, des ordres de colonnes avec des proportions et des bâtiments qui sont faits par une composition et un assemblage de ces éléments qui sont après, qui sont codifiés et que l'on va retrouver tels des modèles répétitifs, autant sur la Grèce, les temples grecs par exemple, et puis après avec Rome, et puis on va retrouver ce vocabulaire classique avec, dans l'Empire romain, qui va être, on peut dire, un vocabulaire qui va être composé d'éléments et va permettre de faire des bâtiments qui sont totalement différents. Alors, il y a une rupture qui est la grande rupture entre la fin de l'Empire romain et le début de l'époque romane qui reprend là aussi une partie de ce vocabulaire mais d'une manière transformée. Et puis après, il y a l'âge classique avec la Renaissance où avec la Renaissance on va reprendre les règles édictées par Vitruve, par les Romains, et on va avoir une continuité dans les bâtiments à la fois de la Renaissance et puis de l'époque classique, et notamment en France, le 17e et le 18e classique, qui va perdurer jusqu'à l'époque néoclassique, on peut dire, à l'orée de notre époque moderne, où on va avoir ce même vocabulaire qui datait donc de quasiment deux millénaires. Et donc, on va se retrouver même avec une résurgence avec l'architecte Bouffil, par exemple, que l'on peut voir à Montpellier. On a eu aussi une résurgence, on peut dire, de la postmodernité et de l'architecture classique, là, cette fois-ci, non plus en pierre, mais en béton. Donc, vous voyez comment le même style a pu perdurer sur des périodes aussi longues. Donc on va marquer une pause et puis je vais reprendre ce débat sur les styles. Bien, nous reprenons sur ces styles historiques et, comme je vous disais, à partir de l'architecture, mais on peut faire les mêmes parallèles dans les autres formes d'art qui vont être la musique ou la littérature, les différentes formes du roman, de la structuration, comme aussi de la symphonie, et on est sur des évolutions ou des changements qui vont être, en tout cas qui vont perdurer, les continuités et des changements relativement faibles par rapport à avec des continuités qui sont sur des périodes longues. Donc je pense qu'il y a un grand malentendu qui est lié à l'art moderne et qui est lié justement à ce changement de civilisation. Alors le changement de civilisation, c'est une rupture qui s'est produite, des ruptures qui se sont produites plusieurs fois dans l'histoire. Je vous citais la fin de l'Empire romain, le début de l'époque romane, et puis la reprise des mêmes styles pour l'architecture. On a effectivement, aussi à travers les autres types de civilisations, des formes qui perdurent et des formes qui changent. Mais ces ruptures ne sont que des moments relativement brefs. Et après, on a une continuité par rapport à cela. Et je pense que notre époque est sur un malentendu, et ce malentendu, c'est de penser que l'art est en permanence fait de ces ruptures et de ces changements et de ce mouvement. Donc, l'art moderne, par exemple, en architecture, c'est le changement de formes qui vont être ornées avec justement ce vocabulaire classique et puis l'art des sculptures qui va être inclus. Enfin, bon, c'est des choses que tout le monde connaît et remplacées par des formes beaucoup plus, on peut dire, fonctionnel, simple, et en même temps, on a le phénomène qui va se passer avec la peinture et la sculpture, avec le cubisme, avec un changement total de vision, un changement radical. Alors, on pourrait penser, si on faisait le parallèle avec les autres époques, que sur cette lancée, sur cette rupture, on va continuer pendant des siècles. En fait, c'est ce qui s'est passé pendant, on peut dire, une certaine, pendant les décennies du XXe siècle, mais il y a eu des premières ruptures après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout dans une période beaucoup plus récente, que l'on peut dater des années 60-70, où la machine s'est emballée, et on est sur un mouvement, une sorte de noria permanente de changement. Alors il est évident que les manières de changer sont limitées. Comme je vous disais, elles correspondent à des changements de civilisation, et les civilisations effectivement ne changent pas tout le temps. C'est la rupture, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Et donc, on a ce phénomène d'emballement de monde qui est en fait soit une répétition fictive de ce qui a déjà existé, soit aussi des fantaisies, et c'est ce que l'on vit aujourd'hui avec les choses qui vont être des élucubrations et où on va demander à l'artiste non pas la perfection dans un style et avec les manières de le juger, mais en permanence d'innover. Et évidemment, comme on ne peut pas innover, on arrive aux absurdités qui sont dénoncées par les auteurs dont on parlait. Alors, je ne vais pas reprendre toutes ces fantaisies aujourd'hui, mais on sait que ça peut aller jusqu'à le scatologique où un certain Manzoni avait mis en boîte ses déjections et il avait appelé ça mère de l'artiste, et puis voilà, ça se vend. Également un autre qui avait fabriqué avec son propre sang du boudin, et puis il faisait l'inauguration de ses œuvres, et le cocktail pour les invités était le cannibalisme, de manger le boudin vu de son sens. Bon, alors ça ressemble à des blagues de mauvais goût d'étudiants en médecine ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, évidemment, on est loin de l'art, mais on est dans le changement. Dans le changement pour le changement, effectivement, ça ne peut produire que ce genre d'absurdité. Donc je pense que il faut dépassionner le débat et de ne pas opposer aussi l'art, ce que font d'ailleurs les personnalités dont je parlais, et notamment le dernier en date qui est Benjamin Olivet, qui montre des peintres, on peut dire classiques, en fait une peinture photographique qui n'est pas sans intérêt, mais qui ne me semble pas forcément refléter notre époque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas oublier le mouvement moderne. Alors, s'il y a une chose qui est importante, parce que si on demande aux artistes d'être dans le changement, et c'est ce qui se passe avec la formation artistique, et notamment dans notre pays, où on a perdu tout le sens du travail bien fait et de l'apprentissage. C'est-à-dire que les métiers qui sont de peintre ou de sculpteur sont des apprentissages, sont des métiers. Il faut des années pour savoir dessiner, pour savoir peindre, et il y a des techniques appropriées, et ça tombe sous le sens. Alors effectivement, quand on est dans la recherche du nouveau, dans cette frénésie, il est évident que on oublie ces techniques, puisque ces techniques vont être associées aux manières, on peut dire, anciennes, réactionnaires, celles qu'on veut rejeter pour les remplacer par le nouveau. Et donc, cette poursuite de la performance nouvelle est quelque chose qui arrive à se détruire par lui-même, puisqu'en fait, on n'a plus moyen de faire, on peut dire, un inventaire et de savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais, puisqu'en fait, ce qui compte, c'est ce qui est nouveau. Et donc, le métier n'existe plus et on n'a plus de critères de jugement. Alors, donc, on va se retrouver devant un monde, on peut dire, une sorte de financiarisation de l'art. Voilà. C'est pas la peine de hurler contre cela parce que ça s'est toujours passé dans toutes les époques, mais surtout il n'y a plus de critères, il n'y a plus le critère justement du métier et de la qualité intrinsèque. Et quand c'est basé sur les valeurs qui sont effectivement totalement subjectives sur ce soi-disant renouveau, on a une spéculation débridée et je crois que c'est le phénomène de notre époque. Alors, il s'agit, je pense, de supprimer le malentendu et de dire, il n'y a rien d'historique dans cette recherche permanente de la nouveauté. On est simplement dans une sorte d'envie de retrouver cette grande époque du début du XXe siècle où on a un changement à peu près dans toutes les formes d'art. Si on est avec la musique, on a par exemple le jazz, qui est une forme totalement différente et très innovante. Et il est évident que par exemple, si on prend la musique, on a les grandes périodes du jazz, avec la naissance du Dixieland, puis du middle jazz, Duke Ellington, Count Basie, et puis l'époque moderne. Charlie Parker, Gillespie, Thelonious Monk, et on peut dire qu'aujourd'hui, le jazz actuel vit sur cet acquis et ne cherche pas en permanence, même s'il y a eu à un moment donné, avec le free jazz, des expériences qui, effectivement, ont tourné court et on est revenu sur quelque chose qui est beaucoup plus audible et compréhensible par tous. Et on a à l'intérieur de ce corpus, on peut dire, d'un certain classicisme, avec ses codes, on a des expressions individuelles et on peut juger donc les musiciens en comparaison au passé et puis on peut juger leur invention propre et on peut juger leur technique. C'est-à-dire que le mot création et le mot créateur, eh bien, il est remplacé par le mot composition. Alors, on parlait par exemple, en architecture aussi, on parlait de composition architecturale, comme on parle de composition musicale. Et on est un compositeur. Et le mot compositeur dit bien ce qu'il veut dire. On assemble des choses déjà existantes d'une manière différente, comme le langage assemble et ne recrée pas une langue, mais on assemble des mots, des phrases, des chapitres pour créer un roman, comme on va assembler des phrases musicales et des notes dans une forme qui est déjà préétablie et qui permet justement, à partir de ces exemples, de pouvoir le juger. Mais que si on jette toute référence ancienne à la poubelle, eh bien, on n'est pas dans la capacité de jugement, puisque on a comme seul critère, c'est-à-dire cette fausse similarité de la science, et de dire on est des chercheurs, le monde commence avec nous, et effectivement du passé faisons table rase, et donc on a aucun moyen de s'ancrer dans la culture, dans la civilisation. Donc vous voyez comment les mots ont leur importance entre compositeur et créateur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de dire « revenons au pompiérisme du XIXe siècle ». Non, il suffit de continuer les formes d'art, par exemple, de l'art moderne, et il y a différents types d'expressions, et il faut justement retrouver ces œuvres d'un passé récent, et de les continuer, et c'est quelque chose qui demande d'abord un regard, ça demande des apprentissages, des savoir-faire, et après il y a des manières de s'exprimer qui peuvent être source de bonheur et source d'intérêt, et quand on parle tellement de culture aujourd'hui, ben justement c'est ce qui crée la culture. Alors je finirai sur aussi un autre malentendu contemporain, et je développerai ça la semaine prochaine, qui est sur l'émotion. Donc aujourd'hui, et notamment le Benjamin Oliven dont je parlais, il dit « l'art c'est l'émotion ». Alors ça c'est quelque chose qui est repris par tout le monde, on dit « l'art c'est l'émotion », et je pense que d'abord de dire ça, on n'a rien dit, et deuxièmement, on se trompe, parce que l'émotion est donnée par d'autres choses. L'émotion, c'est le rappel à des souffrances, à la mort, à la perte d'un être aimé, ou des grandes douleurs comme la Shoah, qui peuvent sécréter de l'émotion. Mais c'est pas ça l'art. L'art n'a rien à voir avec ça. Et je dirais même que l'émotion, bon, qui est toujours quelque chose dans la douleur, l'art, c'est au contraire, il est dans le bonheur et dans la joie. Donc, je parlerai plutôt de jouissance esthétique que d'émotion, et je crois que là, il y a aussi un dolorisme contemporain qui est un malentendu. Voilà, je terminerai sur ça, et puis on continuera sur ce sujet de l'art la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine.